Interview.
7 à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Il a été beaucoup question lors du dernier congrès de la CNRA, la Confédération Nationale des Radios Associatives, auquel se rattache Radio Diwa, qui a eu lieu à Paris le 19 et 20 mai 2017, des difficultés croissantes auxquelles font face les radios associatives pour financer leur activité. Juste après le congrès, conseillé par Xavier Filliol, qui avait été intervenant à la plénière sur les innovations technologiques en tant qu'organisateur des rencontres Radio 2.0, j'avais rencontré Yannick Legarçon, responsable du marketing numérique du GIE, groupement d'intérêt économique, les Indés Radio, et développeur du mur du son de ces fameuses Indés Radio. Et j'avais été fortement frappé à l'époque par son constat que les radios de ce groupement étaient en grande difficulté dans les années 90, jusqu'à ce qu'elles se fédèrent et réfléchissent à des solutions communes à leurs problèmes. Création du GIE, d'une régie publicitaire, du mur du son et plus tard d'un CMS commun. Il a été naturel ensuite d'interviewer Jean-Éric Viali, président de ce GIE Les Indés Radio, qui a eu la gentillesse de se rendre disponible pour évoquer les tenants et aboutissants de la création du GIE et ses répercussions pour les radios adhérentes de ce groupement. Par ailleurs, Sébastien Poulain, sociologue du GRER spécialisé dans le monde de la radio, se propose de diffuser sur ses blogs https://lesradiolibres.wordpress.com et https://radiodufutur.wordpress.com.
Monsieur Viali, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez justement nous planter le décor de la situation de ces fameuses radios commerciales mais indépendantes dans les années 90 qui a justifié la création de ce GIE ?
En fait, ces radios avaient un peu du mal à trouver leur modèle économique. Elles ne se finançaient que par la publicité locale. Et il ne se passait pas une semaine sans que l'une d'entre elles ne soit rachetée par une radio nationale. Et donc, cette situation assez précaire nous a rendu sûrement un petit peu plus intelligents, cette pression en fait. Parce qu'en fait, on commercialisait de la pub locale et puis un petit peu de publicité auprès d'annonceurs nationaux qui, dans les années précédentes, achetaient un petit peu les radios indépendantes. Comme ça, ils faisaient la tournée, ils achetaient 50 radios, 100 radios. C'était très fastidieux pour eux. Et finalement, on s'est dit, si on veut être présent sur le marché national réellement, si on veut trouver cette nouvelle voie de financement, il faut qu'on s'adapte à la réalité de son marché, qui est en fait une réalité centralisée, un seul interlocuteur pour toutes les radios indépendantes. Et c'est comme ça que l'idée de se rassembler est née. Donc c'est pas une pure idée intellectuelle, parce qu'on aurait pu l'avoir, là on était en 1992, on aurait pu l'avoir 10 ans avant, quand les radios ont commencé à exister, disons un peu plus tard, mais quand la publicité a commencé à être autorisée, on aurait pu se fédérer. Or on a voulu faire les cakes et rester chacun dans notre coin, les plus intelligents de la Terre, avec des soi-disant tarifs extraordinaires. En réalité, c'était un peu du vent, et on était aveuglés par le fait qu'on vendait ici ou là un peu de publicité nationale, mais enfin, de publicité émanant d'annonceurs nationaux. Mais en réalité, c'était qu'un tout petit bout du marché. Donc si on regarde le marché aujourd'hui, pour les radios indépendantes, il y a le marché local et le marché national, pratiquement à parité sur nos antennes. Et dans ce marché national, vous avez ce qu'on appelle la publicité multiville, donc des annonceurs nationaux, mais qui vont acheter 5 villes, 10 villes, 15 villes. Et puis vous avez le marché réellement national. Et le marché multiville, qui était un peu le marché auquel on accédait à l'origine, au début des radios indépendantes, mais représente que 10% en fait du vrai marché national. Donc c'était un enjeu considérable de se fédérer. Pour tout vous dire, on a commencé, on était 18.
Et après, ça a fait un effet boule de neige.
Oui, parce que petit à petit, des radios se sont manifestées pour nous rejoindre. Nous, on a aussi un peu démarché les radios. En fait, les choses n'étaient pas planifiées. Hein, c'est-à-dire que on s'est développé en se disant, nous on pense qu'il faut se financer par la publicité, d'autres radios, vos radios, se sont dit, nous on ne souhaite pas la publicité, qui dit publicité dit sa publicité locale, et puis finalement il y a d'autres annonceurs, ah donc sa pub nationale, donc on va sur la pub nationale, on y va chacun en ordre dispersé forcément puisqu'on est indépendant, très intelligent, et puis au bout d'un moment on se rend compte que ça marche pas trop, qu'on en a puis qu'on en a plus, qu'on en a un peu puis qu'on en a presque plus. Et là, on se dit, c'est quoi le vrai marché? Le vrai marché, c'est d'être tous ensemble, un seul interlocuteur. Donc ça c'est pas fait. C'est facile de raconter l'histoire aujourd'hui, mais ça s'est pas fait de manière planifiée ni très intelligente. Ça s'est plus fait dans la réactivité. Mais pourquoi pas, hein, constater une situation, en tirer des conséquences, finalement, ça, certainement, c'est intelligent. Donc on a démarré, du coup, à 18, des radios sont venues s'agglomérer. On a eu le débat au sein du groupement, au bout de quelques années, assez rapidement, de dire « Ah non, on veut pas des nouvelles radios rentrent parce qu'on va partager le gâteau. » Alors qu'en fait, plus il y a de radios, plus le gâteau est grand. Et les parts sont grandes. Donc on a intérêt dans cette typologie d'organisation à ce qu'il y ait le maximum de radios. 132 aujourd'hui.
133, non ? J'avais...
Oui, 133. Ça dépend parce qu'il y a des radios qui rentrent, il y a des syndications qui se font parfois entre radios, donc il y a une espèce de respiration comme ça... Pour vous dire précisément, je crois que ça doit être 131, il me semble, en ce moment.
Alors, au début, 18 radios, mais est-ce que cette idée qui est venue d'un certain nombre restreint de radios a réussi à s'imposer dans l'esprit? Est-ce que c'était naturel ou est-ce qu'il fallait faire de l'éducation, passer du temps énergivore à convaincre les gens, ou est-ce que ça venait naturellement?
Alors, c'est vraiment la question. Non, ça ne vient pas naturellement, parce que nous sommes des indépendants, et je pense que dans l'univers des radios associatives, vous êtes indépendant dans l'âme. Et on a besoin d'être indépendant parce qu'on a besoin de défendre notre média, de lui conserver une antenne qui est libre. Et quelque part, cet élan de liberté qu'on a dans notre cœur, il déborde. Et parfois, il nous empêche de faire des choses avec d'autres. Donc, ce n'est pas naturel. C'est contradictoire en apparence, seulement en apparence, par rapport à ce que nous sommes. Sauf que si on se met à plusieurs et qu'on se ressemble, on ne va pas se dévorer. Et on va quand même être plus fort. Et en étant plus fort, on est plus indépendant.
D'autant que chaque radio est sur son territoire et ne va pas, enfin je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais ne va pas empiéter sur le territoire de l'autre. Donc il n'y a pas de concurrence frontale entre radios.
Alors, au début, parce qu'au début forcément, chaque radio dans sa ville, enfin les radios ont postulé petit à petit et on a été chercher petit à petit. Mais très rapidement, on a fait le tour d'à peu près toutes les villes et on a fait une deuxième couche. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on a des concurrents aujourd'hui frontaux dans leur ville, dans leur région. Mais ça, c'est pareil, c'est le deuxième point. C'est-à-dire, le premier point, c'est de comprendre qu'il n'est pas naturel, en effet, de comprendre qu'il faut se mettre ensemble. Le deuxième point, c'est qu'on peut rester mieux, on doit rester des concurrents ensemble quand même. Donc, il n'y a pas de deal, les radios restent des concurrentes. Et de temps en temps, elles vont même, il y a des aspérités, il y a des moments de heurts. L'idée, ça a été de dire, au bout d'un certain temps, premièrement, on ne va pas interdire à une radio de rentrer parce qu'il y a déjà quelqu'un dans cette ville. À ce moment-là, on ferait un GIE moitié plus petit. Donc, on aurait un concurrent GIE à l'extérieur, plus les concurrents nationaux, ça serait idiot. Donc, on prend tout le monde, vous faites de la compétition normalement. Ça serait dangereux de ne pas le faire. Hein. Vous prenez la presse quotidienne régionale, elle a fait des précarés. Ça, c'est ta région, ça, c'est ma région. Mais regardez l'état dans lequel ils sont aujourd'hui. Ils ont fait un système, finalement, dans lequel ils se sont endormis, à servir la soupe à tous les politiques du coin, parce qu'il y avait de l'argent publicitaire qui arrivait, les subventions nationales qui arrivaient. On a bien dormi dans son coin, il y en a plein qui sont plantés, ceux qui sont aujourd'hui, la plupart ont été repris. En fait, on les compte sur même pas les doigts d'une main pour ceux qui sont restés indépendants, en fait. Donc non, il faut laisser la compétition, il faut laisser... Par contre, il faut faire de la pédagogie pour dire, c'est normal que vous soyez en compétition, c'est normal que vous soyez... qu'il y ait des heurts de temps en temps entre vous. Essayez d'éviter les procès, essayez de privilégier le dialogue. Ne prenez pas à partie le groupement en otage pour vous départager parce que ce n'est pas son rôle, parce que le seul qui prendra des coups à la fin, c'est le groupement. Parce que les opérateurs se mettront d'accord sur le dos du groupement pour justifier qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc, il ne faut pas imaginer que c'est un pays, le pays merveilleux de oui-oui. En fait, c'est le monde normal. Et dans ce monde normal, on a un petit supplément d'intelligence. C'est que sur un sujet, qui pour nous est la publicité, on travaille ensemble. Et de un sujet, aujourd'hui, on y reviendra peut-être, on fait d'autres sujets.
Alors, je voudrais revenir, parce que ma question précédente était comment vous avez fait pour entraîner l'adhésion des radios, parce que l'inertie et la pesanteur sont partout, même peut-être chez vous.
Donc bien sûr.
même si elles sont, comme vous nous avez dit tout à l'heure, le danger a fait prendre conscience qu'il était temps de réagir.
Oui, mais c'est le point de départ.
Quels arguments ont été invoqués pour convaincre les réticents à s'engager dans ce processus de mutualisation des énergies?
Je ne sais pas, je ne crois pas qu'on ait convaincu les réticents. Je pense que la pression économique et la pression psychologique des groupes nationaux, la pression psychologique du CSA, qui ne défend pas les faibles contre les forts, qui nourrit les forts, donc cette espèce d'injustice qu'on a découvert, parce qu'on était très naïf, on est en train de parler de quelque chose qui s'est passé il y a 25 ans, les événements en fait autour de nous, les confrères qui disparaissaient, je suis repris par machin, rire et chanson, énergie, ça crée un microclimat en quelque sorte, très favorable. Après, il y a quelques règles en fait qui sont de dire on a des statuts, c'est pas un moulin, et on ne négocie pas les règles. On les définit ensemble, on les fait évoluer ensemble, mais jamais on les adapte de gré à gré avec une radio comme ci, une radio comme ça, etc. Donc on fait des mécontents le premier jour, mais des gens extrêmement contents les jours suivants et qui se sentent en sécurité parce qu'ils savent qu'ils vont toujours être traités à égalité avec leurs confrères. Et comme leurs confrères se trouvent souvent être leurs concurrents, ça serait intolérable d'être traité différemment d'un concurrent dans la même ville, au même endroit, dans la même région. Donc, on fait quelque chose qui ne se fait pas beaucoup en France. En France, on fait beaucoup de lois qu'on n'applique pas pour les copains, qu'on applique sous forme de sanctions pour les adversaires, et en général, qu'on laisse dormir dans un placard avec une médiocrité affligeante. Donc, ce petit micro-pays qu'est le GIE ne fait pas ça. Donc, des règles qu'on applique et qui sont vivantes et qui évoluent. Et la deuxième chose, pas d'assistanat. En fait, c'est un paradoxe. On n'aide pas les radios. Les radios vivent leur vie, elles vivent tant mieux, elles meurent. C'est dommage, mais c'est voilà. Bon, il y en a peu qui meurent maintenant, mais c'est arrivé dans le passé. On ne fait pas de système d'assistanat qui vont entraîner une sorte de déresponsabilisation. Et au contraire, toutes les décisions qu'on prend au niveau du conseil d'administration, on les filtre toujours en se disant, est-ce que ces décisions-là ne vont pas rendre passifs les opérateurs ? On veut que les opérateurs soient vivants. Donc, qui dit vivant dit concurrence. Ce que j'expliquais sur le terrain localement, les gens sont en compétition entre eux et avec les opérateurs nationaux. Et les radios associatives sont aussi des compétiteurs pour nous. Donc, on est en compétition dans le monde réel. Personne ne nous aidera. Et là, quand on a mis ces fondations-là, qui sont avec un règlement, des règles du jeu écrites, votées, appliqué dans des instances, etc. Quand on a mis en place toutes ces choses-là, on peut construire le futur. Donc le futur, c'est l'apport de la publicité nationale, puisque tout d'un coup, on obtient en ce moment d'avoir 8,5 millions d'auditeurs. En cumulant tout le monde, on a quand même pas mal d'auditeurs. Et puis, on peut, comment dire, oublier qu'on est des compétiteurs et autour de la table du groupement, se dire bah, quels autres dossiers on pourrait travailler ensemble. Et puis finalement, voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc il faut être très très modeste, il faut être très patient. Au début du groupement, on avait commencé à rassembler des directeurs de programme autour de la table pour discuter. C'était horrible, parce qu'ils étaient tous là, ils étaient muets en fait, parce qu'ils disaient, moi j'ai des idées tellement fantastiques, je ne peux pas les donner à l'autre, même s'il n'est pas dans ma ville, je suis un génie. Aujourd'hui, la question ne se pose pas. Il y a un groupe de travail sur les programmes. Alors, on ne travaille pas le détail des programmes, ça appartient à chaque radio, liberté éditoriale. Mais on fait des choses ensemble, comme on fait The Voice, par exemple. On définit les règles du jeu ensemble, qu'est-ce qu'on va produire comme élément d'émission pour les radios, qui sont des petites chroniques, enfin des petites rubriques, des choses qui n'altèrent pas la maîtrise du programme pour l'opérateur. Et donc là, autour de la table, il y a des responsables de programme, ils parlent librement, ils ne sont pas en train de filtrer leur discours. Mais il a fallu, pour en arriver là... le GIE, il existe depuis 25 ans, il a peut-être fallu 15 ans. Donc, si vous voulez faire des choses dans l'univers des radios associatives, il faut que vous ayez plus vite que nous, en fait.
Bah, nous, on a des fédérations déjà, sauf qu'elles ont très très peu de moyens et que ce n'est pas forcément leur priorité pour l'instant. Mais je vais en revenir un petit peu à, parce que on est plutôt là pour parler de vous et pas des radios associatives.
Bien sûr. Je vous cite parce que vous êtes devant moi et puis parce que J'ai beaucoup de respect pour les radios associatives. Voilà, ma radio était associative par nature au début, c'était même pas une question qui se posait. Mais du coup, j'ai beaucoup réfléchi à ça, à quoi vous servez et vous servez. On pourrait dire que non. Les uns disent que oui sans y réfléchir, mais ça c'est démagogique. Donc c'est pour ça que je fais des petits encarts de temps en temps.
Il y a un côté militant, citoyen, ouais, qui est indécrottable chez les radios, ouais, associatives, qui peut-être a été un peu perdu par cette connivence avec les forces capitalistes, avec un cas.
Ouais.
Je veux dire, c'est le fait d'être obligé de trouver une solution financière, ouais, et en passant par la publicité, ouais, a fait que vous êtes un peu conformé à un modèle dominant. Et moi, je ne mets aucune condescendance dans ce constat.
Non, tout à fait. Mais c'est pas une question là. Ce que vous venez de dire, c'est une, oui, affirmation. Mais je pense que la réponse est non, justement, parce que ça aurait été vrai si la démarche du groupement avait altéré les programmes des radios, les avait fait changer. Or, cet ensemble de radios produit une audience qui est mesurable et qui est constatée. L'audience est une conséquence du travail des radios. Donc, on présente cette audience au marché publicitaire. Le marché n'a jamais accès aux radios. Il a accès à la régie publicitaire. Il ne parle jamais aux radios. Donc, il ne peut pas nous dire « je veux des 25-39 ans ménagères de moins de 50 ans, des machins ». On ne les entend pas, nous. Nous, on continue à faire nos programmes. Et quand vous regardez dans les 131 radios des indépendants, il y a vraiment une diversité de radio très très grande. Alors, je sais que quand je dis ça, plein de gens ont le sourire parce qu'on se dit, vous faites tous la même chose, vous copiez des radios nationales. C'est tous les arguments, franchement d'ailleurs, qu'on n'entend plus beaucoup aujourd'hui, mais qu'on entendait beaucoup. Quand on regarde en vrai, qu'on est sérieux, qu'on fait un travail sérieusement, qu'on regarde avec Yacas des stats, qu'on écoute les radios, c'est pas le cas. Il y a des familles de radios qui sont d'une certaine mouvance musicale, donc ils vont se ressembler. Il y a des radios totalement atypiques, il y a quelques radios qui parlent. C'est très très varié. Et du coup, voilà. Le GIE n'a pas eu comme conséquence d'altérer cette liberté éditoriale. Et c'est cohérent avec ce que j'expliquais précédemment. C'est que cette liberté, c'est le contraire de l'assistanat.
De la dépendance.
Pour être vivant, il faut être indépendant. Pour être libre, il faut être indépendant.
Je vais revenir un petit peu en arrière, encore une fois. Aux origines de ce GIE, vous n'avez pas fait tout de suite. Hein. On a parlé tout à l'heure dans l'introduction, j'ai parlé du mur du son, de la régie publicitaire. Quelle était un peu la démarche historique et chronologique ?
Oui. On s'est dit, on veut être présent sur le marché publicitaire national. Voilà, c'est le point numéro un. Le point numéro un, c'est assorti d'un point, un bis, qui était, on veut défendre les radios indépendantes. Et dans nos statuts, ces points-là sont historiquement écrits depuis le premier jour. Se financer, se défendre, quelque part, ça va ensemble. Donc c'est vraiment le point. Après, il y a eu des idées de formation, etc., qu'on a fait, mais qui n'ont pas vraiment marché. Entre formation et assistanat, c'est pas très éloigné, en fait, parce qu'il y a une espèce de pente. Il y a le chef qui vous donne des leçons et vous obéissez à ces leçons ou vous écoutez ces leçons. Nous sommes des entreprises. Personne n'est l'élève de l'autre. Les groupes de travail qu'on a aujourd'hui se font d'égal à égal. Donc d'abord, la pub, la défense de nos radios. Ensuite, on a un peu testé différentes choses. Et aujourd'hui, on est arrivé sur des groupes de travail dans différents domaines. Le digital, les achats, parce que tous ensemble, on achète pour beaucoup d'argent, on peut négocier quand même. La publicité, parce que la manière de mettre la pub sur l'antenne, c'est un sujet, et c'est un sujet très important pour les radios. Hein, c'est vraiment un point qui peut bloquer des gens, donc c'est important qu'il y ait un pôle de débat limité. Si on débat tout le temps sur la pub, on n'en diffusera jamais, parce que de toute façon, c'est une sorte de mal nécessaire, mais dans mal nécessaire, il y a mal. Et puis, petit groupe de travail, entre guillemets, programme, on appelle plutôt ça contenu maintenant, pour optimiser, faire peut-être des choses ensemble, etc.
Ils pourraient faire des suggestions aux radios quand ils trouvent, par exemple, une pépite, une émission. Ils peuvent suggérer aux radios que s'ils le souhaitent, ils pourraient prendre cette émission. Ça se passe, ça?
Non. Non, mais ça pourrait, en théorie. Hein, mais il y a un principe, tout à l'heure, j'ai énoncé quelques principes fondateurs du GIE sur des règles qu'on respecte, pas d'assistanat. Il y en a un autre, c'est un principe de réalité. Réalité. Parce que quand on démarre une organisation comme ça, on a cette tentation un peu euphorique, c'est vrai que c'est inespéré quelque part de faire ça, de se dire on va faire ci et ça et truc et machin, on va rajouter des tas et des tas de choses. Mais le gros danger, c'est de promettre des choses, de se les promettre, de les promettre aux autres et de ne pas les faire. Parce que vous avez, tout à l'heure, vous parliez d'inertie, de choses comme ça. L'inertie, c'est le corollaire d'une organisation collective. Donc dans une organisation collective, il faut quand même qu'il y ait quelques personnes qui prennent l'initiative. Il faut respecter les gens qui prennent l'initiative, pas faire les inspecteurs travaux finis, ah oui, ah bah celui-là, machin, parce que celui-là, machin, il peut s'en aller à un moment donné parce qu'il en a marre, et puis tout le monde va dormir gentiment dans le consensus et la mort. Donc l'initiative, il faut la favoriser, elle appartient souvent à une minorité de gens, mais on peut quand même échanger un peu des idées, et pour pas renforcer cette initiative, quand on échange des idées, il faut les concrétiser. Et donc si on sent qu'il y a des idées trop idéologiques, trop théoriques, complètement utopiques, ou qui ne sont pas prêtes pour maintenant, on les met dans un coin tout de suite. On les met pas en avant, on les met dans un coin. On met en avant ce que l'on fait.
Si on a du bon sens.
Non, mais nous, on n'a pas eu du bon sens. On a dit et fait un peu tout et n'importe quoi quand on a démarré. D'ailleurs, franchement, je vous le disais au tout début, on a démarré, vraiment, il faut être modeste, on a démarré par hasard, sous la pression. Jamais les gens du début, dont je fais partie, n'auraient imaginé ce que c'est devenu aujourd'hui. Et on n'imagine même pas ce que ça peut devenir demain. Par contre, je pense qu'on l'a senti. Donc, si vous ressentez des choses, faites-les. Nous, je pense qu'on a senti confusément des trucs qu'on a su plus ou moins expliquer. Voilà. Mais on a démarré à peu, donc c'est plus facile de se connaître, de se faire confiance, on va dire, un peu. Mais voilà, mais il faut laisser un peu un élan. C'est pas trop intellectuel, en fait. Hein. Ce qui est intellectuel, c'est les statuts, c'est réunir les gens, c'est faire des conseils d'administration, des choses comme ça, parce qu'on a besoin dans une collectivité d'avoir ses références. Mais le reste, les idées, voilà. Et puis tout le monde a des idées, attention aussi.
Alors, vous avez parlé des différents groupements qui structurent un peu votre action, mais vous ne nous avez pas encore parlé de vos réalisations concrètes, par exemple, outre la régie publicitaire, bien sûr, qui est fondamentale, mais en tout cas, vous avez développé ce que vous appelez le mur du son. Et puis, vous avez aussi, vous louez à certaines radios des interfaces qui permettent d'alimenter leur site internet de façon un petit peu standardisée entre radios. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu de ces réalisations ?
Alors, c'est vrai que la publicité nationale, c'était une sorte d'évidence. Et techniquement, etc., c'est très cohérent avec un groupement. Les autres sujets, c'était moins évident. Comment aider les radios, comment ne les aider sans les assister, quel service apporter en plus. Et le digital nous a apporté une réponse. Parce que ça nous a permis de fédérer toutes les marques des radios, tous les programmes des radios, pour pouvoir les revendiquer dans de la publicité. Donc le logo, un des radios qui est apparu au même moment, à cette époque-là, on a modifié notre logo. On est passé des indépendants aux uns des radios, c'est-à-dire un peu moins militants. Militants, ça rime pas avec pub, hein. c'est autre chose. C'est une étape d'ailleurs, mais bon, il faut garder l'esprit militant néanmoins. Donc de cet univers publicitaire, le digital nous a permis d'en faire autre chose, quelque part de revenir un peu à l'éditorial, d'avoir cette espèce de marque numéro 2, de marque ombrelle, on dit souvent ça, pour fédérer toutes les radios, mais là plutôt en direction du grand public. Donc en fait, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait créer comme application qui rassemble toutes nos radios ? C'est compliqué de rassembler plein de radios. Ben, vous faites la carte de France, des régions, on appuie sur des régions. L'auditeur, ça ne l'intéresse pas du tout. Il ne fait pas de la géographie en écoutant de la radio. Donc, en réfléchissant à ça, on nous a présenté des maquettes moches et stupides pendant un certain temps. Et puis un jour, je me suis dit, mais finalement, toujours ce principe de modestie, les radios indépendantes sont très bien connues dans leur région, dans leur ville principale, leur ville historique, leur ville de développement dans la région, mais elles ne sont pas connues à l'autre bout de la France. Donc si on fait une appli, c'est génial de mettre les logos des radios, super, ça nous fait plaisir. Alors déjà, ces logos, on va les géolocaliser, parce qu'au moins ceux qu'on verra à l'écran en première lecture, ça sera ceux qui nous entourent, donc en gros, on a 9 chances sur 10 de les connaître, donc de ne pas avoir peur de l'application. Puis après, on se dit, mais si on veut aller au-delà, on tourne le carrousel des logos, on voit plein de logos inconnus apparaître. On s'est dit comment on fait pour faire découvrir des radios que les gens ne connaissent pas. Et là, je me suis dit, je dis « je » parce que c'est vraiment mon idée, comment dire, un peu fondatrice de cette appli, parce que je voulais une appli complètement originale et différente des autres. Je me suis dit, mais finalement, ce que les gens connaissent par contre, c'est la musique qu'on joue. L'artiste en lui-même, la pochette du disque, etc. Enfin, cette ambiance-là, ils la connaissent. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait rentrer par la musique. Et qui dit rentrer par la musique, bah dit comment on présente les pochettes. Et là, notre agence de graphisme, donc l'appli, elle est faite par une agence qui fait de l'informatique, une société qui fait de l'informatique, puis une société qui fait tout ce qui est design. Donc ceux qui font du design nous ont dit, bah ok, qui dit pochette, on pourrait faire un mur avec toutes les pochettes, etc. Donc du coup, on a une appli qui repose sur ce qu'on appelle le mur du son, qui est le mur des pochettes de disques qui sont jouées en ce moment, et un carrousel de logos. Alors quand on est parti sur cette idée-là, en fait, à l'époque, on a changé de fournisseur. Parce que je l'appelle, je lui dis, voilà, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que t'en penses ? Il me dit, oui, on peut le faire. Vous voyez, il était incapable de le faire. Parce que là, ce que je vous décris, c'est le haut de l'iceberg. Quand vous appuyez sur la pochette d'un disque, en fait, il y a un lien. Il y a un fil qui part dans la radio. Dans la radio, il y a un petit logiciel pour récupérer les datas. Enfin, c'est toute une industrie derrière, complètement surréaliste. Sauf que cette industrie, aujourd'hui, nous sert à alimenter tous les autres endroits où nos radios sont présentes dans l'appli des indés déclinée. puisqu'elle est sur les smartphones, mais elle est aussi sur ordinateur, dans des consoles de jeux, dans des box TV, dans des téléconnectés, j'oublie, hein, dans plein de trucs. Donc elle est en collectif, on va dire, elle est dans plein d'endroits, mais en individuel, les radios elles-mêmes sont dans des endroits. Elles ont développé une appli, elles ont développé un site, elles ont passé un deal avec la box Orange ou je sais pas quoi. Et là, quand elles mettent leur radio à cet endroit-là, elles récupèrent les data, leur data, elles récupèrent de notre centralisation de data pour alimenter d'une belle façon. Par exemple, toutes nos radios sont dans Deezer. Monsieur Deezer, il a parlé qu'au GIE pour récupérer toutes les radios et toutes les data. Donc, les radios font un effort une fois de nous laisser l'accès à aller piocher leur data chez elles. Et après, s'occupe plus jamais de tous les développements. Et en digital, on part dans toutes les directions. Donc, ça simplifie considérablement les choses. Donc, voilà, on est parti de cette appli. Et puis, partant de cette appli, on s'est dit, mais là, avec la casquette de radio, on s'est dit, mais on n'y arrive pas avec nos sites internet. Même les meilleures radios de groupement qui sont très, très fans du web, etc., elles galèrent. Comment on pourrait faire? Parce que vous développez un site, le jour où vous le mettez en ligne, il est déjà obsolète. Donc, on s'est dit, finalement, est-ce qu'on pourrait pas faire une appli, un site collectif, enfin au sens où l'architecture est collective, on donne les éléments, enfin on donne ce site, l'accès à ce site à une radio qui met son identité dessus, son contenu dessus. Et alors, comme toujours dans notre méthode de travail qui fonctionne par des groupes de travail, on a créé un groupe de travail spécial digital. Le groupe de travail a déterminé avec Yann Le Garçon, dont vous parliez tout à l'heure, qui est notre permanent digital ici, aux côtés d'Alexandre Aubry, qui lui s'occupe plus spécifiquement de l'appli du mur du son. On a déterminé un cahier des charges. Donc, tout le monde a apporté ses idées. C'est pas le chemin vert, c'est de dire, nous, groupement, on ne sait pas qui d'ailleurs, on a pensé à tout et voilà ce que vous pouvez faire. Non, pas du tout. C'est, bon, voilà les basiques, voilà les prestataires qu'on a imaginés pour ce sujet-là qui nous semble avoir des bonnes références, mais qu'est-ce qu'on va mettre dans tout ça? Donc, groupe de travail, cahier des charges prestataires, site en marque blanche, appli en marque blanche, et ensuite, les radios apportent leur contenu. Et du coup, ça a donné des sites et des applis qui ont beaucoup plus de pages vues et d'utilisateurs que nos sites précédents, parce qu'on oubliait toujours que pour être référencé, il faut un petit gris-gris par-ci, un petit machin par-là, des choses auxquelles on est un peu étranger. On vient des années 80, de l'analogique, de la radio. Là, on est dans un univers digital, on est plus consommateur de cet univers que créateur de cet univers, sauf les plus jeunes d'entre nous, c'est-à-dire des gens qui travailleraient aux indés, dans les radios des indés, qui auraient une tranche d'âge entre 20 et 30 ans maximum. Eux, ils ont une certaine sensation du digital, mais les autres non. Donc, il faut qu'on soit lucide par rapport à ce qu'on est. On a beaucoup d'expérience et beaucoup de qualité, je pense, et beaucoup de persévérance, mais on ne sait pas tout. Donc, ce site en marque blanche, ça permet de travailler des idées ensemble, de les faire développer par des prestataires qui, eux, sont aussi dans le match d'aujourd'hui, vraiment dans le match du digital. Et puis, au final, que les radios aient un site et une appli qui tient la route tout le temps, qui est renouvelée tout le temps. Là, on a démarré la V1 il y a 6 mois, on a inauguré la V2 avant l'été. Donc, on avance comme ça rapidement. Voilà. Et il y a des radios qui ont gardé leur site, hein, parce que si elles souhaitent garder leur site. Et on a mis un ad server commun, qui par contre, lui, est sur toutes les radios, qu'elles soient issues de l'architecture commune ou qu'elles soient propres à la radio.
Alors, vous aviez dit que le mur du son était un effort en direction du public. Qu'en est-il réellement? Est-ce que le public a adopté votre mur du son ou est-ce que c'est épiphénoménal?
Alors, c'est une vraie question, mais disons que, en gros, chaque radio a son site et son appli. Et les radios ont des visiteurs uniques en quantité variable en fonction de ce qu'elles font.
Donc il y a des gens qui viennent quand même du mur du son aux radios.
C'est pas ça que je dis. Je dis juste que je dis chronologiquement les choses en quelque sorte. Les radios ont leur propre site, leur propre appli. Elles ont une audience variable. Il y a des radios qui ont très peu d'audience sur leur site et leurs applis. D'autres qui ont beaucoup plus d'audience. C'est pas lié à l'audience qu'elles ont en FM d'ailleurs. Étonnamment, c'est autre chose. Mais d'ailleurs, c'est finalement, c'est pas si étonnant parce que c'est autre chose de digital. Et l'appli se comporte comme une radio de plus, qui certes fédère toutes les radios au niveau des programmes, mais c'est une radio de plus. Donc l'appli en elle-même, elle a son propre public qui peut en effet découvrir des radios là et ensuite aller les chercher spécifiquement en chargeant leur appli ou autre chose. Donc le site des Indés Radio et l'appli des Indés Radio ont leur public particulier. Pour donner un ordre d'idée, mais vraiment je vais vous dire un chiffre un peu dans les grandes masses, ça doit être 500 000 personnes en fait qui consomment cette appli. L'appli a été téléchargée 2 millions de fois. Quand je dis l'appli, en fait, c'est aussi bien si vous avez trouvé sur un iPhone qu'un Android, que la Xbox 360, que la télé, je sais pas quoi. L'appli, elle est déclinée dans plein de supports. Et ça fait au total 2 millions de téléchargements.
D'après ce que je me rappelle de ce que m'avait dit monsieur le garçon, c'est que vous proposez cette interface d'alimentation de vos sites, 600 euros hors frais de développement pour les radios. Qu'est-ce qu'elles en disent les radios? Elles trouvent ça cher, pas cher? Qu'est-ce qu'elles en pensent?
Non, celles qui n'ont pas envie de le faire, elles le font pas. Elles disent rien d'ailleurs, mais elles le font pas. Il y en a, je crois, une soixantaine sur 131 radios. Il y en a une soixantaine qui ont adhéré, il y en a d'autres qui adhèrent. Il y a toujours des précurseurs et puis des gens qui arrivent après. Il y a des gens qui sont un peu en position d'observateur et puis qui se décident ensuite. Le prix n'est pas vraiment une question parce que si on le ramène au prix par mois, je crois qu'on tourne autour de 60 euros pour le site et de peut-être 40 euros pour l'appli. Pour une radio commerciale, dépenser 1000 euros dans Internet, c'est génial parce qu'on ne dépense pas ça. C'est-à-dire quand vous faites un site, vous êtes entre 5000 euros si vous faites travailler un copain, 20000 euros si vous faites travailler un grand compte extraordinaire qui n'est pas plus créatif qu'un autre. Et puis ça tout le temps, c'est-à-dire tous les ans, tous les deux ans, vous repartez, machin, bidule. Plus l'appli en elle-même qui a tendance à coûter à peu près le même tarif. Donc c'est moins cher de faire tous ensemble, c'est évident, c'est moins cher de faire tous ensemble. On développe qu'un seul site finalement avec une seule appli. On cumule toutes les bonnes idées dedans, les gens les alimentent ou pas d'ailleurs, hein, ils les activent ou pas, les différentes fonctionnalités. Donc c'est pas cher. Et puis... moi, c'est un sujet, bon, j'évoque pas tellement avec les radios parce que je pense que avec le temps, elles ont compris des choses. Parce que c'est vrai qu'au début, on nous disait « Ah, ça, c'est cher. Ça... » Ben, enfin, est-ce qu'on veut faire la radio ou pas? Et ça, c'est valable pour toutes les radios. Je veux dire, quelle que soit la catégorie de la radio, à un moment donné, oui, il faut payer en effet un émetteur. En effet, il faut mettre du courant dedans. Et aujourd'hui qu'il y a le digital, eh ben oui, en effet, il faut à nouveau... Alors, ça renvoie à la question de l'argent. Mais oui, ça coûte, puis ça coûte un peu plus cher qu'hier, certainement.
Alors je vais revenir sur la pub parce que si j'ai bien compris quand même la raison d'être primordiale de ce GIE c'était donc cette régie publicitaire. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler des clauses qui lient les radios au GIE? Elles peuvent picorer des pubs nationales? Comment elles sont obligées de passer tant de publicités par jour? Qu'est-ce qui lie les radios au GIE?
Alors on va parler au présent parce qu'il y a eu différentes étapes, mais on va dire il y a un truc qui n'a jamais changé, c'est une radio qui veut profiter des prestations du groupement, dont la publicité, elle adhère au groupement, elle paye une cotisation.
Donc, de combien à peu près?
Alors, la cotisation, aujourd'hui, ça doit être 1 euro par auditeur. Plus vous avez d'auditeurs, plus vous payez cher.
Confirmé par des études médiamétriques ou...
Oui, bien sûr. Oui. Oui, parce que, pourquoi? Parce que les annonceurs utilisent médiamétrie. Donc, médiamétrie, c'est notre étalon, c'est notre juge de paix, c'est notre étalon. Que ça soit plus ou moins juste, plus ou moins vrai. En fait, médiamétrie, c'est juste... avec une marge d'erreur. Et on oublie toujours cette marge d'erreur. Donc ce qui fait que quand on n'a pas beaucoup d'auditeurs, on peut avoir d'une année sur l'autre du simple au double. Et on dit donc, médiamétrie c'est faux. Non, pas du tout. Si vous prenez le tableau des marges d'erreur de médiamétrie, vous le confrontez à l'audience que vous avez, vous voyez quelle est la marge d'erreur et vous êtes dans cet univers-là. Donc médiamétrie, c'est la norme du marché publicitaire. C'est aussi quand même un chiffrage du nombre de personnes qui nous écoutent. Pour fabriquer nos programmes, ça sert à quelque chose. On ne peut pas totalement s'affranchir, quelle que soit encore une fois la catégorie de radio, on ne peut pas s'affranchir complètement de savoir s'il y a des gens qui nous écoutent ou pas. Donc on a cette base de départ médiamétrie, quelque part du coup tout en découle. Donc à peu près, je crois que c'est de mémoire 1 euro par auditeur pour adhérer au groupement et 7 euros par auditeur reçu via la publicité nationale. Donc en fait, pour établir la cotisation, il faut à la fois regarder quelle va être la structure nécessaire pour que le groupement existe pour de vrai. Et il n'existera pas, il n'existe pas s'il n'y a aucun permanent. On a une dizaine de permanents, nous, dans la tête hein, du groupement, sur à peu près 2500 salariés dans l'ensemble des radios indépendantes. Et puis, de l'autre côté, le chiffre d'affaires qui va être généré pour doser la cotisation en fonction de ça.
Donc en tout, si j'ai bien compris, 84,4 millions d'euros, hein, un truc comme
ouais,
ça.
Ouais, en fait, je suis en train de réfléchir, je crois que je me trompe sur la cotisation, il faudrait vérifier, c'est peut-être 40 centimes. Franchement, je crois que ce n'est pas 1 euro, parce qu'un euro, c'est beaucoup par rapport à 7. 1 euro payé et 7 euros reçu, je crois que c'est 40 centimes payés, 7 euros reçu.
Donc ça c'est très rentable pour les radios.
Ah oui, c'est l'objectif. Hein. L'objectif, à la limite, au départ, c'était de payer le moins de cotisations possible. Après, on se rend compte que si vous ne donnez pas d'argent au groupement, vous ne faites pas le mur du son, vous ne faites pas l'architecture collective, ça vous coûte bien plus. Vous n'avez pas de mur du son déjà, donc vous n'existez pas dans plein d'endroits. C'est pas avec votre radio tout petit dans un coin, vous allez voir monsieur BMW pour savoir s'il vous a mis votre logo dans ses applications. Enfin voilà, ça n'existe pas, ça. On est dans un truc ultra mondialisé, très grand compte. Donc déjà, il y a un des choses que vous ne pouvez pas faire, et puis deux, vous avez économisé votre cotisation au Groupement, puis vous vous retrouvez à payer votre site internet plein pot tous les 6 mois. Quel intérêt ? Donc c'est évidemment rentable de collectiviser certaines productions pour ensuite les déployer.
Mais alors une fois que donc cette Rindé Radio a cotisé, fait partie des GIE, en quoi elle est engagée ? Elle doit passer un certain nombre de publicités par jour ? Les publicités lui arrivent par le Groupement ?
Alors,
j'ai cru qu'on entendre c'était TF1 maintenant ?
Oui, tout à fait, la régie, oui. En fait, elle signe des statuts, l'Assemblée Générale se prononce si elle accepte ou pas cette radio, mais elle l'accepte dès lors qu'elle respecte un certain nombre de critères. Elle respecte les critères, elle signe des statuts, elle est adhérente. Et elle signe en plus un petit fascicule qui va concerner la publicité digitale, ça c'est si elle le souhaite, et un petit fascicule concernant la publicité nationale, ça c'est pas si elle le souhaite, parce que sinon elle adhère pas au Groupement. C'est quand même le point essentiel du Groupement, on peut pas adhérer pour autre chose. Donc elle signe ce petit fascicule, et ça, ça détermine tout le fonctionnement qu'elle va avoir avec, concernant la publicité locale, et les engagements qu'elle a à l'égard du Groupement. Ensuite, le Groupement, lui, il prend des engagements à l'égard d'une régie. Il fait un appel d'offres et il prend des engagements à l'égard d'une régie. Ce qui fait que les engagements au niveau de la régie, ils sont gérés par le Groupement, ils peuvent fluctuer au fil du temps, sachant que de l'autre côté, les engagements entre la radio et la régie, eux, ils sont figés, ils évoluent. Parce qu'on peut toujours faire évoluer des petites choses, mais grosso modo, ils sont figés. La radio, elle a signé une fois pour toutes son truc. Tant qu'elle est dans le Groupement, elle applique ses règles du jeu. Si elle ne veut plus les appliquer, si elle ne veut plus être dans le Groupement, elle démissionne du système. Mais de l'autre côté, le Groupement, lui, il a beaucoup de souplesse avec la régie pour ajuster des choses en fonction du marché. On ne peut pas signer un contrat pour les 10 prochaines années sans jamais le remettre en question, etc. Donc on signe un contrat qui dure 3 ans, côté régie. Côté radio, c'est à durée indéterminée. Voilà, donc on a vraiment dissocié les deux. Évidemment, les règles ne sont pas antinomiques entre ce à quoi on s'engage avec la régie et ce que les radios nous donnent, parce que sinon ça serait insensé. Mais en tout cas, voilà. Et alors, ça veut dire que grosso modo, les radios s'engagent toutes à la même chose. C'est à peu près à donner un espace-temps chaque heure. En fait, c'est par demi-heure, mais bon, pour simplifier, chaque heure de l'ordre de, je crois que c'est 6 minutes, d'espace réservé à publicité nationale, c'est pas forcément rempli. Parfois, on demande un petit effort supplémentaire certains mois aux radios parce qu'on était en retard les mois d'avant. On va essayer de se rattraper le mois où il y a une forte demande. Mais autour, dans l'idée, ça tourne un peu autour de ça. Donc, elle s'engage à quelque chose comme ça, à diffuser les publicités, à les diffuser en priorité. Il y a un peu des règles qui découlent de ce que le marché national nous impose. Le marché national, c'est un marché qui a des habitudes avec nos concurrents. Nos radios ne sont jamais en prise directe avec les acteurs de ce marché. Donc on doit faire des choses très simples. Nos problématiques psychologiques en tant que radio ne seront jamais reçues par le marché national, quand bien même on voudrait les exprimer. Donc voilà, donc on a bâti des règles qui tiennent compte de cette réalité de marché et qui sont non négociables. Vous adhérez au GIE, vous adhérez à ces règles. Parce qu'on ne peut pas, si on est là on est 131, chacun a son idée. Par contre, groupe de travail, publicité, j'évoquais tout à l'heure. Ça veut dire que quand on construit ces choses-là, on les construit pas tout seul dans un bureau, on les construit avec les radios. Pas à 130 radios, ça c'est utopique, mais à un groupe de travail, c'est en gros c'est une dizaine de personnes. Et là, on construit des choses, on affine des choses, on modifie des choses, on discute.
Alors vous avez dit publicité nationale, à peu près 6 minutes ouais. par heure, saupoudrée à travers l'heure ou...
Alors,
et puis deuxième question, vous avez dit 6 minutes pour des publicités nationales, c'est-à-dire que la radio peut aussi consacrer un temps supplémentaire pour ses propres publicités locales hors GIE.
Oui, bien sûr. Bah, au départ, on vend de la publicité locale, donc on a des clients, et aujourd'hui, c'est en moyenne à peu près 50% du chiffre d'affaires local et 50% national. Donc, à peu près 6 minutes par heure. Justement, l'astuce, c'est toujours le même esprit d'indépendance éditoriale. On nous a suggéré à la création du GIE de faire un décrochage, d'envoyer les publicités, en fait, le son des publicités comme une banque de programmes. À telle heure, bing, tout le monde, ça, on décroche. Ça. On s'est dit, mais pourquoi faire ça ? La technologie permet de faire des choses qui n'ont absolument rien à voir. C'est, psychologiquement, c'est mettre les radios dans un système d'asservissement, de réseau éditorial. Techniquement, c'est stupide. Alors, pour l'auditeur, c'est ridicule. Je veux dire, le type, il va faire une émission, il va jouer son disque, il va être en train de faire une rubrique, une chronique, un machin, et bing, ça va se couper. Donc, on envoie aux radios les datas des pubs, les sons des pubs. C'est un réseau informatique. Donc ils reçoivent ça dans leur propre réseau informatique local, c'est intégré dans leur programme. Ce qui veut dire que si une radio fait... je disais tout à l'heure, je l'ai dit vite fait, c'est à la demi-heure, c'est pas dans l'heure. Donc on leur dit, par exemple, je t'envoie telle publicité à diffuser dans telle demi-heure. Le type la met où il veut dans sa demi-heure. Ce qui fait que ça n'altère pas sa grille de programme, ça n'altère pas son émission. Alors, il y a des cas particuliers, mais ça ne regarde pas le groupement, et enfin, c'est un autre sujet, mais si quelqu'un diffuse un match de foot, ben, dans la demi-heure, il faudra qu'il diffuse les pubs du GIE. Donc, voilà, s'il ne les diffuse pas, il aura une pénalité. Et ça, c'est pareil, c'est non négociable. On peut pas. Encore une fois, on n'est pas au contact du marché publicitaire. On va pas leur expliquer nos états d'âme. Ils vont comprendre qu'en fait, on n'est pas unique, on n'est pas un réseau. Or, pour eux, ça doit être simple. On est un réseau de proximité. Voilà, c'est très simple. On commence pas à leur expliquer notre vie. Donc, dans la demi-heure, la radio fait ce qu'elle veut, ce qui fait que jamais elle va couper un disque au milieu, un flash d'info au milieu. Elle va jamais, jamais, jamais. Et elle peut mélanger sa pub nationale et sa pub locale, ce qui fait que pour l'auditeur, là aussi, il faut toujours être dans la tête de l'auditeur. L'auditeur, il veut entendre un programme qui n'est pas interrompu n'importe comment. Et puis, pour l'auditeur, la pub nationale, la pub locale, il le perçoit, pas comme nous, en tant que professionnels, nous, c'est un peu intellectuel, lui, il le perçoit d'une manière plus artistique. Donc, s'il y a d'un côté la pub nationale, d'un autre côté la pub locale, ça lui paraît un peu bizarre. Il y a quelques radios qui font ça, d'ailleurs, hein, bah, pour des simplifications techniques, mais mélanger les deux, c'est bien pour l'auditeur.
Vous avez dit tout à l'heure aussi qu'il y avait aussi de la publicité sur site, c'est-à-dire que vous pourriez intégrer sur les sites des radios, oui, des bandeaux, ouais, voire des gifs animés, je ne sais.
Oui, oui. L'ad-server, en fait, permet de diffuser toutes sortes de publicités, que ce soit de la vidéo, du son, des bandeaux, des habillages d'écran. Là, les règles sont un peu différentes par rapport à la publicité radio analogique. C'est qu'en fait, priorité au local. Donc c'est l'inverse, priorité au local, parce qu'en général une radio va vendre plus cher sa pub locale digitale que sa pub nationale, et elle va utiliser le même ad server, parce que sinon on ne peut pas vendre de publicité nationale sur toutes les radios, mais c'est elle qui va l'alimenter comme elle a envie de l'alimenter. Donc si elle a beaucoup d'annonceurs locaux, elle aura moins d'annonceurs nationaux. Mais c'est pas du tout la même logique. C'est-à-dire que dans le groupement, vous avez 130 radios qui, dans une demi-heure donnée, diffuse toute la même pub nationale, parce qu'on a vendu l'audience de tout le groupement. Sur le digital, il n'y a pas d'audience nationale, ça n'existe pas. Si l'annonceur diffuse 10 fois sa pub, il paiera pour 10 fois. S'il la diffuse 100 fois, si elle est vue 100 fois, il paiera pour 100 fois. Si elle est vue 10 fois, il paiera pour 10 fois.
Justement, on peut raisonner en nombre de clics.
Ouais,
ça, c'est possible.
C'est complètement
ça.
Différent. Voilà. Donc, si une radio se dit, bon, moi, je prends la pub nationale que m'envoient les régies avec lesquelles le groupement a contracté, il y en a 5 ou 6 en ce moment. C'est pareil, deuxième différence, il y a plus de régies. Je prends toute cette pub, mais je verrai, je diffuserai. En fait, c'est automatique, hein, de toute façon, elle ne se pose pas vraiment la question. Mais si elle met, elle, beaucoup de pubs locales, ça laissera moins de place pour la pub nationale. Elle aura plus d'argent via le local que via le national, mais ce n'est pas un sujet. Par contre, le sujet dans la pub digitale, c'est que ça ne rapporte pas assez d'argent. Ça, par contre, ça, c'est un sujet.
C'est-à-dire que ce n'est pas cher payé, quoi.
Non, c'est rien du tout.
Donc, il faut vraiment beaucoup de milliards de clics pour que ça commence à devenir.
Ouais, bon. Enfin, je ne sais pas ce qu'il faut. Je pense que c'est un marché qui est trusté par Facebook et Google. Deux sociétés américaines, donc on peut être tout à fait fier en France de notre grandeur passée, historique, lointaine, défunte, parce que ça se reflète vraiment dans le digital. On fait rien dans le digital, on est des spectateurs du digital, y compris dans les devices. Voilà, donc nous, faut qu'on soit en tant que média, faut qu'on soit très très vigilant à pas détruire nos sites et nos applis via la publicité qui vient s'ingérer n'importe où, n'importe comment. Donc ça, c'est un point à jamais perdre de vue. À bien travailler l'audience de nos radios, l'intérêt des programmes de nos radios, la personnalité des programmes de nos radios, parce que c'est notre vraie valeur, et de continuer le plus possible à vendre des messages publicitaires et de considérer pour l'instant le digital comme un complément.
Vous avez parlé de, faut pas faire n'importe quoi avec la pub. Est-ce que vous avez fait des enquêtes quand même vis-à-vis de votre public pour savoir comment ils percevaient la pub, s'ils approchaient même de l'indigestion, voire de l'aversion?
Alors, question difficile. La réponse est oui et non à la fois. Avec la régie publicitaire nationale qui vend la publicité radio, donc TF1 Publicité, on a fait des enquêtes de perception sur cette publicité. Alors, comment ils perçoivent la pub locale, par exemple? Est-ce que ça les dérangeait qu'on mélangeait plus le local, national, etc. Comment ils percevaient nos radios en général sur différents paramètres. Donc, on n'a pas identifié de rejet de la publicité. Et souvent, la publicité locale est perçue plutôt comme du programme. Parce qu'on vous dit, à tel endroit, telle adresse, dans la ville où vous habitez, il y a telle chose, telle bonne affaire, tel machin. Les gens ne sont pas complètement dupes non plus de la pub. Hein, ils ne prennent pas des notes pour courir chez le... Il ne faut pas le répéter aux clients, mais c'est la réalité. Ils ne courent pas chez les annonceurs comme ça parce qu'ils entendent un spot. Mais en même temps, ça marche. Ça marche. Enfin, tous les clients le savent. Quand on a un stock à déstocker, la radio, c'est très puissant. Quand on est en période de crise, c'est très puissant parce que c'est pas cher et les gens l'entendent. Donc ça marche très très bien. Mais en même temps, tout le monde est à un niveau culturel suffisant pour savoir que c'est la publicité. Néanmoins, c'est un peu apprécié comme ça, voilà, comme du programme. Après, il y a un autre versant sur lequel, franchement, je crois qu'on n'a pas vraiment de questions. C'est jusqu'à combien de spots ou de minutes de pub on peut diffuser dans une heure. Et pourquoi on n'a pas de réponse ? Parce qu'en fait, ça dépend beaucoup de la radio, des habitudes des auditeurs, du programme de la radio, etc. Quand on prend, par exemple, des radios généralistes le matin, ils vont diffuser jusqu'à 20 minutes de publicité dans une heure. Vous imaginez, 20 minutes, c'est énorme. Une radio FM, elle va diffuser, pour celle d'entre nous qui diffuse le plus de pubs, parce qu'elle a, par exemple, beaucoup de pubs locales en plus du national, elle va nous faire peut-être 16 minutes dans une heure. Et puis, vous avez des radios qui vont restreindre beaucoup plus ça, qui vont être à 8-10 minutes par heure. Donc c'est très très variable, je pense que c'est une question d'habitude des auditeurs, c'est une question de manière de présenter la pub. Après vous avez des théories, alors sur Radio Généraliste c'est vraiment un univers à part, eux ils vont couper en 1000 morceaux la pub parce que forcément vous parlez, vous interrompez 2 secondes, vous passez 2-3 spots, vous reparlez. Une radio musicale elle peut pas tout couper tout le temps parce que vous aurez une sensation d'un programme totalement interrompu, c'est désagréable. Mais il y a des radios qui ont 4 écrans par heure et puis il y a des radios qui ont 2 écrans par heure. Ou 3 écrans par heure, c'est variable. Voilà. Donc j'ai du mal à vraiment donner des certitudes là-dessus. Par contre, c'est vrai que ce qu'on ressent, c'est que plus il y a de pubs, moins il y a d'audience.
Ah, quand même.
Oui, mais c'est un ressenti. Je suis incapable de vous le démontrer, parce que si on regarde les 130 radios du groupement, vous en trouverez des contre-exemples. Il y en a qui font des tunnels publicitaires pour se débarrasser de la pub en une fois, et ils sont quand même au contact des annonceurs, notamment locaux. Donc si l'annonceur local ne voyait aucun client, que ça ne marchait pas, il n'achèterait plus de pub. Donc quelque part, c'est un deal avec le public. C'est-à-dire inconsciemment, le public sait qu'en écoutant cette radio, il va se prendre sa dose à un moment donné, mais après, il est tranquille. Qu'une autre radio, c'est la stratégie inverse, c'est je diffuse un peu, puis vite, vite, rassure-toi, je reviens en programme, et puis je rediffuse un peu plus tard. Donc voilà, moi, j'ai pas d'idée. Moi, je pense que l'équation, elle est ailleurs. C'est qu'en fait, si vous ne diffusez pas de publicité, vous n'avez pas d'argent et vous n'êtes pas vraiment dans la société de consommation à laquelle nous sommes et nous vivons tous. Hein. Sauf si on est en haut des montagnes du Larzac à élever des moutons, mais la plupart des gens, il y en a pas mal d'ailleurs, mais la plupart des gens, bon, ils vivent dans les villes, etc. Ils vivent dans la société de consommation. Donc vous êtes un peu hors jeu si vous n'avez vraiment aucune publicité.
Il y a d'autres solutions quand même.
On fait
des contrats avec des partenaires, nous, par exemple, avec des parcs nationaux ou des institutions, on peut faire des...
Oui, oui. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, il y a un prix à tout. C'est-à-dire que des contrats avec des partenaires qui, quelque part, vont quand même juger votre radio plus par rapport à son programme que par rapport à son nombre d'auditeurs, ça a des conséquences sur les programmes. C'est un peu comme la presse quotidienne. J'aime beaucoup les gens de la presse quotidienne, même si je porte quelques critiques. Je le dis entre parenthèses parce que d'abord, je suis respectueux de ce qu'ils sont et surtout de ce qu'ils sont en train de devenir. Parce qu'ils sont en train de savoir se numériser, enfin devenir digitaux. Et c'est un grand chemin très difficile pour eux. Sans doute plus pour nous, radio, on est moins vieux en quelque sorte. Donc en tout cas, la PQR, elle touche des subventions étatiques tous les ans, qui sont des sommes assez considérables, en tout cas qui sont nécessaires à leur fonctionnement. Et quelque part, il y a eu un principe d'autocensure qui s'est développé dans les journaux. Je dis bien autocensure, parce qu'ils n'attendaient pas de se faire engueuler par les pouvoirs publics, ils s'autocensuraient avant. Et ce système d'autocensure a fait qu'ils ont perdu du lectorat constamment, 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 et qu'ils ont été extrêmement en danger. Et la seule chose qui les sauve, c'est pas que tout d'un coup ils se sont dit « ce qu'on fait n'est pas bien », c'est qu'en fait, pour les survivants, le digital est arrivé, et que si en France vous avez Mediapart, vous ne pouvez pas continuer à faire un journal dans votre coin en accord avec les grands institutionnels locaux pour ne pas les vexer. Vous ne pouvez pas. Voilà, vous pouvez plus. Et en plus, c'est pas la vocation d'un média de servir la soupe, c'est pas l'envie d'un média. Hein, c'est, j'ai pas rencontré des patrons ou des journalistes qui ont envie de servir la soupe. C'est pas génétiquement, c'est pas nous. Donc dès qu'on a une porte de sortie, on la prend. Et tout ça pour dire que les partenariats, pour moi, ça a ses limites. Au premier abord, on a l'impression que c'est indolore. En réalité, si on réfléchit bien, c'est pas sûr. J'ai eu connaissance de radios qui sont vues sucrer leur subvention par la région, par la préfecture, par je sais pas qui, parce qu'ils faisaient des missions techno et que ça plaisait pas à des vieux qui comprenaient rien à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, et puis qui sont un peu, comment dire, qui n'ont pas compris le mot liberté. Il y en a plein en France. Hein. Leur dictionnaire devait avoir une page en moins, je pense, quand ils étaient petits. Ils ont un petit problème de ce côté-là. Donc la pub, bien orchestrée, finalement, c'est pas si invasif que ça dans un média.
Très bien, bah je vous remercie beaucoup, hein, Jean-Éric Valide, d'avoir répondu à mes questions. Une petite dernière question pour la route quand même, hein, parce que comme Colombo, j'ai toujours...
Ouais, je m'attends au pire.
Voilà, c'est ça. Non, mais parce que quid de l'avenir, vous avez des projets pour les Indes Radios ou est-ce que ça commence à ronronner? Vous savez, en général, ça part comme en flèche, on a une bonne idée, puis après, ça se stabilise et puis après, ça se sclérose.
Ça coule après.
Donc, où est-ce que vous en êtes de votre processus?
Je sais pas à quel endroit on est de la pente, mais disons que la sensation que j'ai, c'est que on va ouvrir un nouveau chapitre. On a fait des choses qui nous paraissaient extrêmement spontanées au départ, sans trop réfléchir, un petit peu. On a plus réfléchi pour bien les orchestrer, pour leur donner forme et avec tous les petits ingrédients que j'ai évoqués au fil de la discussion, tout ça étant assez spontané. Mais dans un univers de radio vraiment indépendantes les unes des autres, etc. Et là, on commence à, depuis quelques années déjà, on commence à travailler ensemble sur un certain nombre de sujets concrets à travers les groupes de travail. Et je pense que ça, c'est vraiment le début du truc, le début de l'histoire. Et on est en train d'inventer un truc un peu hybride qui à la fois est national, international, on va dire même, parce que si on va par là avec le digital, qui est à la fois national, à la fois local, à la fois intégré, à la fois indépendant. C'est un peu tout à la fois. Et donc j'ai l'impression qu'on est au début de quelque chose, et non pas à la fin de quelque chose, non pas à l'avènement de quelque chose qui existe depuis 25 ans, et en gros on est arrivé, etc. C'est plus une philosophie, ce que je suis en train de dire, que de dire, bon, on a fait le mur du son, on va faire un mur du son bis, on va inventer en 3D, en 4D, en je ne sais pas quoi. C'est pas ça. Je ne sais pas sur quoi ça va s'appliquer, mais je pense que c'est quelque chose qui est en train de se créer, parce que les radios ont appris à travailler ensemble, savent être concurrents et partager ensemble des idées, ce qui n'est pas évident. Donc quelque part, si je veux faire, là j'ai parlé beaucoup de modestie au début, un tout petit peu de prétention, à mon avis on a beaucoup de leçons à donner à certains acteurs nationaux. Eux, ils travaillent tout seuls. Il y a peu de gens qui réfléchissent ensemble, ils ont du mal à faire ça. C'est vraiment la logique du groupe intégré totalement à 100%. Et nous, comme on dit petit avec notre vue basse, en fait, de cette faiblesse, on a inventé une force qui ressemble à celle des radios associatives. On a inventé cette force. Il faut savoir l'orchestrer, il faut savoir la maîtriser, il faut savoir combattre les préjugés que nous avons. Hein. Les ennemis ne sont pas extérieurs, ils sont juste à l'intérieur, ils sont bien à l'intérieur. Donc il faut arriver à trouver la bonne alchimie. Mais on a toutes les cartes en main et l'univers du digital est propice à ce genre de choses. Qui est à la fois ici et là, à la fois tout seul et ensemble.
Voilà. Ubique.
Ubique, voilà.
Bien, sur ce mot, Jean-Éric Valli, merci. Et puis,
merci,
bon vent.
Oui, merci beaucoup. Interview.